Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, nous recevons deux représentants spéciaux des Nations Unies en Afrique. François Lounsenifal est représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale et Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine. Nous les avons rencontrés en marge du débat annuel de l'Assemblée générale. Ils reviennent sur leur participation aux assises de ce grand rendez-vous mondial et sur les enjeux en cours dans leur région. Le débat général annuel de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est aussi l'occasion pour les chefs d'État et les délégations gouvernementales de haut niveau d'avancer sur les crises régionales qui les concernent, avec notamment la participation des représentants spéciaux des Nations Unies pour leur région. C'est également l'occasion pour ONU Info de recevoir ses représentants dans nos studios, en marge des assises, comme l'a fait Jérôme Bernard avec François Lounsenifal, représentant spécial du secrétaire général pour l'Afrique centrale et chef du bureau de l'ONU pour la région.
Monsieur François Fall, ma première question concerne le groupe Boko Haram qui continue de menacer la stabilité régionale. Est-ce que les efforts militaires des pays de la région sont en bonne voie pour éliminer cette menace ?
Il est constaté depuis un certain temps que la force multinationale a accompli de grands progrès sur le terrain militaire, de même que les quatre pays qui sont engagés sur le front, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Mais nous assistons quand même à une multiplication d'attaques suicides, surtout dans le nord du Cameroun, et aussi à un regain d'activité à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Donc c'est encore le ventre mou des opérations. Mais ce qui est important dans la région, c'est les conséquences des attaques de Boko Haram sur les populations civiles, avec un nombre impressionnant de personnes déplacées qui fuient la guerre et qui créent des phénomènes de transhumance qui deviennent une nouvelle réalité sur le terrain. Mais dans l'ensemble, les opérations militaires ont commencé à porter leurs fruits pour réduire les capacités militaires de Boko Haram.
Lors de votre dernier exposé devant le Conseil de sécurité, vous avez évoqué la poursuite des tensions politiques dans certains pays de la région, principalement liées aux processus électoraux récents ou à venir. Est-ce que la situation a changé depuis ?
Je dirais que nous jouons pleinement notre rôle de bons offices dans la région. Nous avons hérité d'une situation post-électorale dans la plupart des pays, parce qu'il y a eu 7 élections présidentielles l'année dernière dans la région, à l'exception de Sao Tomé et de Centrafrique. Toutes les autres élections ont créé des problèmes. Aujourd'hui, avec l'entretien que nous menons auprès des différents États, nous essayons d'organiser des dialogues politiques pour préparer les élections législatives. C'est ainsi qu'au Tchad aujourd'hui, il y a un début de dialogue entre le président Déby et l'opposition. Également au Gabon, il y a eu un dialogue politique, malheureusement qui n'était pas inclusif, mais quand même il y a eu un dialogue politique qui a essayé de prendre en compte certaines revendications de l'opposition. Le Congo en a connu de même. Il y a eu des élections générales au Congo. Donc je dirais dans l'ensemble que par les bons offices que nous menons, les choses commencent à se mettre en place. Mais nous sommes encore très très vigilants. Et comme vous savez, la politique du secrétaire général est basée sur la prévention. Et à ce titre, nous jouons pleinement les bons offices dans chacun des pays.
Vous jouez un rôle de bons offices pour soutenir les efforts de dialogue au Cameroun concernant les tensions dans les régions anglophones. Pouvez-vous nous expliquer votre action et où en est la situation ?
L'année dernière, vous savez que les problèmes ont commencé au Cameroun, dans la partie du sud-ouest et du nord-ouest. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans ces régions anglophones, le gouvernement avait pris des mesures pour couper Internet à ces régions, ce qui avait des conséquences assez dramatiques sur l'éducation, les écoles, les banques, les affaires. Et nous sommes intervenus, nous avons fait nos bons offices en rencontrant les deux côtés anglophones, les anglophones et aussi le gouvernement. Et grâce à nos efforts, le gouvernement a rétabli Internet dans ces régions qui avaient été privées d'Internet depuis au moins 4 mois. Et aussi, sur notre insistance, nous sommes intervenus plusieurs fois au gouvernement et nous avons bénéficié de l'appui très solide du secrétaire général qui est intervenu personnellement pour la libération des détenus, des leaders anglophones qui sont détenus. Et le gouvernement, il faut dire que le gouvernement camerounais avait pris déjà un certain nombre de mesures pour satisfaire les revendications des anglophones, des revendications qui étaient tout à fait fondées. Malheureusement, des personnes qui ont été libérées, il reste encore quelques-uns. Et je crois que nous encourageons le gouvernement à poursuivre dans cette bonne direction afin que l'on puisse trouver une solution pour apaiser réellement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes au Cameroun, surtout dans la partie anglophone. Il y a naturellement des extrémistes qui veulent profiter de cette situation pour demander la sécession, d'autres qui veulent le retour au fédéralisme. Nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pour l'unité du Cameroun. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on prenne en compte les revendications des anglophones qui sont tout à fait fondées et que le gouvernement continue dans son élan d'apaisement en libérant les derniers prisonniers pour que la vie reprenne. Parce que jusqu'à présent, les écoles sont fermées, les activités n'ont pas repris correctement et il y a encore une certaine incertitude qui se développe dans ces jours-ci. Donc, dès mon retour d'ailleurs à Libreville, je compte me rendre au Cameroun pour continuer nos bons offices.
Concernant la République centrafricaine, la situation reste précaire. Quel rôle jouez-vous pour aider à revitaliser le processus de paix?
Vous savez, il y a une initiative africaine actuellement qui est sur la table, que les Nations Unies soutiennent. Notre rôle en tant que bureau régional, c'est d'appuyer notre collègue parfait, qui est le représentant spécial pour Centrafrique, dans sa dimension sous-régionale. Donc nous travaillons très étroitement avec la MINUSCA, avec les pays voisins qui sont impliqués et qui sont dans le panel. C'est à ce titre d'ailleurs que nous avons négocié avec le gouvernement tchadien la possibilité de diffuser un peu les tensions entre la République centrafricaine et le Tchad par l'organisation de la commission mixte de coopération entre les deux pays. Nous pensons que ça c'est un cadre logique qui pourrait permettre aux deux pays d'évacuer un certain nombre de problèmes liés à la sécurité, aux questions de transhumance, de réfugiés. Mais en même temps, nous insistons auprès des pays voisins pour que tout le monde s'implique. D'ailleurs, le président Bongo a pris la décision de convoquer une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des États de la CAC pour soutenir l'initiative africaine. Donc, nous travaillons pleinement dans ce sens-là.
Qu'en est-il de la menace posée par l'armée de résistance du Seigneur, la LRA, en Afrique centrale?
Quand vous parlez aux Ougandais, les Ougandais vous diront que la LRA n'est plus une menace pour l'Ouganda. Oui, certainement. Mais Kony court toujours. Il est en liberté, ses troupes sont en activité. Ils n'opèrent pas en Ouganda, mais ils opèrent au Sud-Soudan, en DRC, en République centrafricaine. Et avec le départ des troupes américaines et des troupes ougandaises de Obo, qui est une province de la République centrafricaine, nous avons exprimé des inquiétudes. J'en ai parlé avec la Croix de cette question, afin qu'il n'y ait pas un vide dans cette partie qui est frontalière avec le Sud-Soudan et la République démocratique du Congo, puisqu'il y a encore plusieurs groupes qui sont en mouvement dans cette région. Donc la LRA pour nous n'est pas un sujet mort. Nous avons toujours la coopération avec l'Union africaine et ils ont un envoyé spécial. Nous continuons à travailler pour que la LRA soit définitivement éradiquée.
Et ma dernière question porte sur la piraterie dans le golfe de Guinée. Il y a des incidents récurrents. Y a-t-il eu une amélioration?
Oui, il y a des incidents, c'est vrai, mais il y a aussi une amélioration au point de vue institutionnel. Vous savez, le centre international de Yaoundé est maintenant opérationnel et les deux centres régionaux, Kresmaouk et le centre de l'Afrique centrale et le centre de l'Afrique occidentale, sont aussi opérationnels. Donc, nous allons très prochainement accompagner une mission pour une levée de fonds afin de soutenir de plus activement ces bureaux, parce que nous considérons que la piraterie maritime devient une véritable menace pour toute la région du Golfe de Guinée. Donc nous travaillons avec les deux régions, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous travaillons ensemble pour mettre en place un dispositif militaire robuste qui puisse permettre de faire face à la piraterie.
Restant toujours axés dans la région Afrique centrale, gros plan à présent sur la République centrafricaine, pays qui est à nouveau en proie à une recrudescence des violences. Lors du débat général, son président, Faustin Archange Touadéra, a averti que le pays se trouvait à un moment charnière et que cela menaçait d'affecter l'ensemble de la région. Une réunion a été organisée en marge du débat pour renouveler l'engagement des États en faveur de la RCA. Écoutez la réaction de Parfait Onanga Anyanga, représentant spécial du secrétaire général pour la République centrafricaine, au micro d'Alban Mendes de Leon.
Cette réunion nous a donné une immense satisfaction et surtout l'engagement renouveler les États membres autour du président Touadéra, redynamiser le processus politique à travers évidemment l'initiative africaine, autour du leadership national centrafricain, renforcer les capacités de la MINUSCA, c'est un appel qu'on a entendu, que le secrétaire général a lancé et qui a été repris par le président de la République lui-même, mais aussi des membres importants du Conseil de sécurité. Un appel également à cette assistance humanitaire dans un pays où aujourd'hui plus de la moitié de la population est en besoin humanitaire. Donc cette réunion nous a donné cette occasion extraordinaire vraiment de refaire le point, d'entendre aussi, surtout, je crois, la détermination du président Touadéra qui, confiant de l'appui que lui apportent les partenaires, a vraiment envie de prendre le taureau par les cornes et d'avancer au-delà des défis, et ils sont immenses.
Alors les défis, les violences ressurgissent dans plusieurs régions. Les victimes principales sont la population, mais parfois également la mission de maintien de la paix. Est-ce que vous avez identifié les raisons de ces nouvelles violences et comment y répondre ?
Les raisons, les ingrédients en Centrafrique sont malheureusement toujours les mêmes. C'est l'absence de l'État, la force légitime et la justice. La prédation par les groupes armés qui profitent précisément de cette absence de l'État pour se livrer une compétition sans merci et violente pour le contrôle justement de ces ressources. Et puis évidemment, pour justifier malheureusement ces forfaits ignobles, il y a toute cette campagne absolument déplorable de dénigrement de communautés au nom du sentiment patriotique visant à chasser les mercenaires étrangers. Il y a un risque que nous nous retrouvions justement encore une fois, dans une manipulation des différences confessionnelles pour stigmatiser une partie de la population et pour entretenir justement cette violence. Maintenant, la réponse ne sera pas simple, il faut qu'elle soit multiforme, parce que la dynamique du conflit en Centrafrique est plus au niveau de la périphérie, dans toutes ces zones qui sont des zones quasiment de non-État, de non-droit. Il faut donc nous assurer que dans les futurs efforts de médiation qui vont être engagés, qu'il y ait une représentation, une participation de tous les médiateurs à la base et à travers justement ce que les Centrafricains eux-mêmes ont établi, des comités de paix et de réconciliation, qu'on puisse justement nous assurer qu'une réponse est apportée à la base, là où ça fait mal. Maintenant, pour le faire, il faut également que nous ayons la capacité de mettre la pression, une pression militaire, pourquoi pas, même s'il faut insister sur le fait qu'il n'y aura pas de réponse militaire en République centrafricaine. Une fois qu'on aura stabilisé la situation et que le dialogue aura pris racine à partir de la base, il faut s'engager dans ce travail de réconciliation nationale et se féliciter du fait que les autorités aient lancé les travaux de la commission Vérité, Réconciliation, Justice et Réparation qui permettra précisément aux Centrafricains de s'interroger vraiment sur les causes profondes de leur conflit.
Et quelles sont les initiatives récentes pour que le fléau des abus et exploitations sexuelles cesse en Centrafrique?
La mission a fait du combat contre l'exploitation sexuelle et les abus sexuels sa priorité. J'ai dit ouvertement à tous mes collègues que les lanceurs d'alerte seront protégés. Et nous avons établi justement un groupe de travail qui réunit l'ensemble du leadership de la mission, mais aussi surtout les collègues de l'équipe pays, parce qu'il faut une approche globale et intégrée pour apporter une réponse à ce problème. Mais nous faisons mieux, nous allons vers les communautés. Elles savent désormais, à travers des numéros verts, qu'elles peuvent nous appeler et nous dire où est-ce qu'ils pensent qu'il peut y avoir un risque d'abus sexuel. Nous veillons, à travers les équipes qui ont été mises en place, qui informent le leadership de façon régulière sur les zones à risque. Et donc, ces zones font l'objet de visites régulières et de sensibilisation de nos troupes. On a désormais un fonctionnaire de haut niveau au sein de la mission qui aura pour vocation d'être l'avocat des victimes. Et c'est à l'initiative du secrétaire général et donc à la MINUSCA. Nous sommes véritablement un laboratoire pour le combat contre les abus sexuels et nous continuerons à fournir tous les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait plus un seul cas d'abus sexuel dans la mission multidimensionnelle en République centrafricaine.
Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire d'ONU Info, présenté cette semaine par Christina Silvero, à retrouver sur les ondes de nos radios partenaires, sur Internet et sur les réseaux sociaux Facebook, SoundCloud et Twitter. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.